Onde Noire, deuxième partie. Jacques, tu nous emmènes dans l'Europe de l'Est.
Dans l'Europe de l'Est, en Pologne ou en Allemagne, en fait, selon la période de du siècle, c'est en Haute-Silésie. Voilà, donc c'est une partie de la Pologne qui a été longtemps allemande, qui est de nouveau polonaise maintenant, et qui est, à l'époque où se passe le roman, qui est allemande, mais là, à l'époque, il y avait beaucoup de l'Europe qui était sous domination allemande, puisque ça se passe en 1945. C'est donc un roman de Marek Krajewski, prononciation sous réserve.
C'est pas mal.
Le titre du roman, c'est La forteresse de Breslau. C'est paru à la série noire, donc chez Gallimard en grand format. Et c'est traduit par Laurence Dièvre.
Oui, parce que Dièvre, comme on est aujourd'hui, c'est
Dièvre, voilà. Et c'est donc le dernier tome de la pentalogie de Breslau. Donc, c'est le cinquième roman, pentalogie.
C'est original. Voilà. On est arrivé à la tétralogie. La pentalogie. C'est assez.
Et ben voilà. Donc, c'est quand il y en a cinq.
Ouais.
Et donc, c'est la cinquième et dernière enquête.
Oui, c'est bien,
de Eberhard Mock, qui est donc le héros protagoniste, principal.
T'as pas choisi le livre pour la prononciation
non,
des noms.
Mais ça, en même temps, sinon, dans ce cas-là, on parlerait que de romans qui se passent à Marseille ou à Nice, ça serait facile. Voilà. Et donc, ce roman se déroule essentiellement en 1945, je le disais tout à l'heure, bien qu'il y ait quelques flash-forward en 1950, en 1954.
Ah, ça non plus, je ne connaissais pas. Le flash-forward.
Oui.
C'est retour vers le futur. Ouais,
flashback, flash-forward. Donc, en 1945, les nazis occupent encore la ville, qui s'appelle donc Breslau, puisqu'en fait, le nom polonais, c'est Wrocław, mais bon, autant dire Breslau, c'est plus facile. Alors, au début, c'était un simple flic, et là, il est devenu le criminal director de la ville. Mais en fait, il est déchargé de ses fonctions parce qu'il a été blessé assez sérieusement à la tête pendant les bombardements de Brest. Il était dans l'armée allemande, évidemment, puisque les Allemands avaient embauché un peu tout le monde dans les pays qu'ils avaient envahis.
Embauché est un terme...
Embauché, oui, c'est une façon de parler. Il va donc enquêter, disons à titre privé, mais en usant quand même de tous les avantages de sa fonction. Le point de départ, c'est le viol suivi du meurtre sauvage d'une jeune femme qui se trouve être la nièce de la comtesse du coin, parce qu'il y en avait une à l'époque encore.
Juste dans le coin.
Voilà, ouais, enfin dans des environs de Breslau. Et donc cette comtesse va lui demander de retrouver l'assassin. Alors le crime est plus ou moins rapidement imputé à des soudards russes, vu que la ville commence à être envahie par les armées soviétiques. Et donc Mock, lui, il a un petit peu de l'expérience, il faut dire qu'il a déjà, il a maintenant 62 ans, et ça fait donc près de 40 ans qu'il est flic, et on le berne pas aussi facilement. Quelques détails vont vite lui indiquer une autre piste. Et on va le suivre dans une des enquêtes les plus sombres. Il faut bien dire que la période y est pour quelque chose. La Gestapo et les SS tiennent toujours la ville. Et ce sont des gens qui sont guère réputés pour leur bonne humeur et leur sens de la fête. À la fin de leur règne, en plus, là, puisqu'ils vont bientôt se faire virer par les Russes, ça les incite aux pires exactions. De son côté, il faut bien dire que Mock, lui, sait pas entendre. Il use de moyens pour atteindre son but qui sont très certainement pas dans le manuel de police, fut-il polonais. Depuis les débuts donc de la série, Marek Krajewski a vraiment affiné à la fois son personnage et son écriture. Donc Mock a gravi tous les échelles de la police. Il est passé des mœurs à la crime, mais il ne s'est pas assagi pour autant. Il n'a pas mis non plus trop d'eau dans sa vodka, au sens propre comme au figuré. Malgré son âge et son état physique, il continue de partager de bons et de longs moments avec sa bouteille, qui est pourtant devenue une denrée rare en ces périodes de pénurie. C'est facile de parler quand on fait tout des tas de gestes derrière le micro, mais bon. Et au sens figuré, du fait qu'il ne met pas trop d'eau dans sa vodka, ses méthodes d'investigation sont toujours aussi... bizarre et aussi personnel, enfin aussi à lui. Il est capable de disserter.
Personnel peut-être.
Personnel, voilà.
Il est capable.
Oui, mais en même temps, oui, mais c'est moi, j'ai un peu de mal. Il est capable de disserter des heures avec un philosophe, de casuistique, en latin et en grec, puis, quelques instants après, d'aller torturer un prisonnier en polonais ou en allemand. Tout ça pour obtenir l'info qu'il désire, Dans les deux cas.
Enfin, pour faire vraiment de l'humour macabre, si le torture en grec, ça va pas donner grand chose.
Voilà, hein. Ben oui, en même temps. Mais par contre, pour discuter de casuistique,
c'est mieux.
C'est plutôt, c'est mieux. Voilà. Surtout de l'interprétation, en fait, des textes de la Bible dans la traduction allemande. Mais c'est un détail très important pour, dans le roman. Et en fait, c'est d'ailleurs ça qui fait la force des romans du cycle de Breslau. Ce flic, érudit, imperturbable, tenace, accro à l'alcool et aux femmes. Apparemment, il a passé quelques années aux mœurs et ça aide bien. Et l'autre attrait, évidemment, c'est le roman de Breslau, en fait, qui nous raconte sur une période, ça, les premiers, c'était avant la première guerre, donc dans les années 1910. Celui-là se finit en 50. Donc, on a toute une histoire de la ville de Breslau, un peu à la manière de Gunnar Stolzen, qui avait fait le roman de Bergen. Sauf que là, en fait, c'est complètement intégré à un cycle de romans policiers.
Et donc, c'est le dernier.
Là, c'est le dernier. Oh ben, ça serait un peu, de toute façon, il a 62 ans en 45, le roman se finit en 54, donc il en a près de...
Oui, voilà. Et donc, c'est un peu âgé pour voilà. Courir le guillot.
Je vais pas raconter la fin, mais bon, c'est très...
Ah, il meurt ?
C'est très probablement le dernier, je sais pas. Ah. Enfin, si je sais, mais je le dis pas.
Voilà, c'est pas gentil.
Donc, une dernière précision, si tu ne m'interromps pas. En fait, deux précisions. Ceux qui s'attendent à une rédemption ou un happy end à l'américaine se vont être... extrêmement déçu. Car l'auteur, en fait, n'épargne personne dans le roman, pas même le lecteur. C'est d'ailleurs ce qui fait la force et la puissance de ces romans, et essentiellement de celui-là. Et la deuxième précision, c'est que les deux premiers romans de la série ont été réédités en folio policier.
Donc, si vous
voulez, commencer, le premier s'appelle Les Fantômes...
S'il n'y a pas la mort à Breslau.
Non, le premier s'appelle Les Fantômes de Breslau, et le deuxième, La Peste à Breslau.
Ah oui,
et c'est le premier est vraiment une écriture très étrange, parce qu'en fait, le flic est moitié bourré tout le temps, donc l'écriture s'en ressent. Le deuxième, ça commence à prendre forme, et l'intrigue est bien tenue.
Voilà, donc, La Forteresse...
De Breslau, voilà. Et je voulais préciser qu'en fait, on peut lire les romans pas forcément dans l'ordre, puisque quand il y a quelque chose à savoir, l'auteur habilement nous le fait savoir dans les pages.
Nous le rappelle.
Nous le rappelle, exactement.
Voilà, ben moi je suis têtue. Tout à l'heure, j'ai pas vraiment eu le temps de vous parler de Polar Adrap, donc je me rattrape un petit peu. Donc, quelques invités. D'abord, le parrain, Caril Ferré, auréolé de ses grands succès tels que Zoulou, il y a 3 ans, et oui, il y a 4 ans maintenant, et l'année dernière Mapuche,
le même Caril Ferré que Raclette Verne dont on a parlé.
Voilà. Et oui, normalement il devait y avoir un enchaînement, mais j'ai pas eu le temps. Les deux romans dont je viens de parler sont aussi à la série noire. L'invité d'honneur, c'est Claude Mesplède. Alors, Claude Mesplède, c'est l'encyclopédiste du polar. Il a sorti il y a quelques années le dictionnaire des littératures policières. C'est le grand érudit. J'ai tendance à dire que c'est un des grands spécialistes mondiaux, même pas français, mais mondiaux, des genres policiers, tout confondu, que ce soit le noir, le thriller, le roman policier. Voilà. Et puis, plein d'autres auteurs, qui ont déjà l'habitude de venir, tels que Afed Ben Othman, Jean-Hugo Pell, Marcus Malte.
Jean-Bernard Pouy,
qui est une de nos mascottes. Et puis, il y a aussi, et ça, c'est, très intéressant pour le festival, des nouveaux auteurs. Quand je parle de nouveaux auteurs, c'est-à-dire...
Des nouvelles plumes.
Voilà. Ceux qui ont sorti des romans en 2011-2012, et c'est leur premier roman, tel que Karim Madami, Tilali Ham, Olivier Bordassar, je dois en oublier un ou deux. Voilà, et c'est très intéressant de découvrir, on va dire, un petit peu cette nouvelle vague. Alors, au programme, des tables rondes, des présentations d'auteurs, une petite, on va dire, novation dans ce festival, ça se fait pas beaucoup. On enlève le modérateur et on met deux auteurs face à face, qui se connaissent bien et qui vont pouvoir s'interroger l'un l'autre sur leur univers, qu'ils connaissent très bien.
Il y aura aussi Jacques Ferrandez pour la bande dessinée.
Voilà, j'allais le dire. Pour la bande dessinée, vous avez Jacques Ferrandez avec le très bel album Alger la Noire qui est sorti en 2012 et puis l'ensemble de ses carnets d'Orient. J'ai oublié de dire que ces auteurs viennent parler beaucoup des territoires du polar, c'est-à-dire de ce qui se passe à l'intérieur de l'Hexagone, mais aussi dans plein de pays différents. Et Jacques Ferrandez, donc, avec toute cette histoire de l'Algérie, est parfaitement à sa place dans ce festival. Et puis, aussi, quelque chose qui me semble très intéressant, toute la journée de dimanche, on va avoir Jean-François Ferrandez, qui est un caricaturiste, un dessinateur, un illustrateur, un photographe. Et là, il va avoir sa tablette et il va croquer les auteurs de polar, mais aussi les gens qui passent, les gens qui écoutent une table ronde, un petit peu le public, et il offrira quelques dessins à ceux qu'il a croqués. Voilà, donc ça se passe les samedis 2 et 3 février. C'est le nouvel espace culturel qui se trouve à Drape, qui se passe l'espace Jean Ferrat. Et si vous voulez tout le programme en détail, je vous donne le nom du site, l'adresse du site, salon-polar-drape.fr. Maintenant, si vous, vous tapez Polar Drape, Google vous trouvera le site adéquat.
Au même Yahoo. Hein.
Voilà. Et un petit peu de punk.
C'est ça, voilà. Jacques ? Exactement. Du punk. Le groupe s'appelle les Damned. Alors, je dirais avec mon accent, les Damned. Le morceau s'appelle I Feel Alright. C'est extrait de leur premier album qui est paru, si je m'abuse, en 77, en pleine période du punk. Mais la chanson est écrite par un de leurs inspirateurs, une influence revendiquée et parfaitement évidente à l'écoute. C'est Iggy Pop qui avait écrit cette chanson pour les Stooges, I Feel Alright, The Damned. Hey Keith.
Voilà, c'était il y a 30 ans. Que dis-je? Presque 40.
Ben oui.
Enfin, entre les deux, quoi.
Un certain temps, disons.
Voilà. On reste en Europe, mais on part un peu plus dans le Nord.
Encore plus dans le Nord, oui. Alors,
la Silésie, c'est peut-être aussi dans le Nord.
Oui, mais là, c'est vraiment dans le Nord. C'est un roman de Monica Christensen qui s'appelle Opération Fritam, qui est paru dans la collection Gaïa Polar. Donc, Gaïa, c'est les spécialistes des romans scandinaves. Et donc, il est traduit du norvégien, donc puisque Monica Christensen est norvégienne, par Lou Maël Besançon. Donc, l'opération Fritam, qui est le titre du roman, en fait, c'est le nom de code d'une véritable action militaire des Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale, où les Anglais, en fait, ont monté une opération navale avec la brigade norvégienne, donc quelques Norvégiens qui s'étaient réfugiés en Écosse à l'époque, pour reprendre aux Allemands les îles du Spitzberg.
Spitzberg.
Spitzberg, oui. En fait, les bases météo de l'archipel du Svalbard.
Ah, décidément, tu t'es gâté ce soir. Oui,
en fait, Svalbard, c'est le nom original du Spitzberg. Spitzberg, c'est le nom qu'ont donné les Anglais, puisqu'ils avaient décidé qu'il allait l'appeler comme ça. Va-t-on savoir pourquoi? Il doit y avoir une raison, certainement, qui n'est pas expliquée dans le livre, de toute manière. Alors, si vous ne voyez pas où ça se trouve, c'est très, très au nord, en fait. C'est 80 degrés de latitude nord.
On rappelle que le pire, c'est 90. Donc
voilà, donc on s'en rapproche. En fait, au-delà du cercle polaire, très au nord, donc, de la péninsule scandinave. C'est donc, vous avez compris, pas les Bahamas. Il va faire très froid dans le livre. Tout commence en 1941 par le meurtre d'un pasteur dans la neige, dans une petite chapelle de Norvège. Meurtre perpétré par deux déserteurs norvégiens de l'armée allemande. Parce que l'Allemagne avait envahi la Norvège, les Norvégiens pouvaient s'engager dans l'armée allemande, surtout certains qui étaient collabos. Et ces deux déserteurs, non seulement ils tuent le pasteur, mais aussi ils volent une icône d'une grande valeur, à la fois symbolique et financière, qui est le trésor de la chapelle. Puis un peu plus tard, on trouve un des frères, une balle dans la tête, mais ni l'autre frère, ni l'icône. Malgré une enquête assez sérieuse menée par le flic de l'époque. Un peu plus tard, en 1942, se déroule l'opération Freedom dont je parlais au début. Avec un succès mitigé, en fait carrément un fiasco, pour tout dire, la Luftwaffe a coulé les deux navires qui devaient envahir l'île du Spitzberg ou de Svalbard.
Envahir une île avec un bateau, c'est pas facile.
Bah oui, mais en même temps, en avion, on pouvait pas le faire.
Sur la banquise.
Voilà, et donc 60 ans plus tard, donc pratiquement de nos jours, les survivants se retrouvent là-haut, dans l'Arctique, pour se souvenir, éteindre les brûlures du passé. The Reconciliation, en fait.
En norvégien.
En norvégien. Mais voilà.
Du sud.
Ben oui, mais comme je ne connais pas bien le norvégien, je préfère mettre l'accent.
Oui, il y a quelques accents qui sont un peu délicats.
Et voilà donc, au lieu des embrassades dans la neige avec les grosses doudounes, ce sont des villes secrets qui vont ressurgir.
Les grosses doudounes, c'est pas les norvégiennes.
Non, c'est le vêtement qu'on met pour aller dans la neige, bien évidemment. En fait, tout ça pourquoi? Parce qu'il y a des chercheurs ont enquêté sur l'opération militaire et ont découvert quelques faits un peu suspects. Et du coup, le flic qui enquête de nos jours, le commissaire, probablement d'ailleurs superintendant, Fjed, c'est encore pareil, F-J-E-D, vous prononcez un peu comme vous voulez, se demande si le voleur de l'icône ne serait pas dans les survivants de l'opération Freedom. Et voilà, donc là je vous ai un peu résumé le livre, enfin donner quelques pistes. Et avec tous ces ingrédients, Monica Christensen va nous faire un très bon polar qui mêle histoire, guerre, enquête, espionnage et même un peu thriller. C'est très habilement fait, avec la lenteur qui caractérise la plupart des polars scandinaves. Mais une lenteur qui est pas gênante car elle va très bien dans le style. C'est comme marcher dans la neige, on peut pas courir donc on marche doucement.
Et le froid ça paralyse.
Voilà. Elle a de très beaux personnages, même s'ils ne font que passer très épisodiquement. L'éleveur Samy qui découvre le premier cadavre, qui revient de temps en temps. Le flic de 1941 qui tente de résoudre le crime tout en luttant contre la malveillance, c'est rien de le dire, des envahisseurs allemands. On retrouve aussi quelques termes récurrents de ce type de polar, qui fait que ce ne doit pas être si anecdotique ni négligeable que ça. La collaboration avec les nazis de la population.
Ouais, c'est souvent qu'on trouve ça dans les polars nordiques.
De la population et du gouvernement. Les dérives sectaires de certaines religions. Ou encore l'espèce d'arrogance de l'amirauté britannique qui croit que les océans leur appartiennent toujours, qui pensait que faire une simple expédition, elle marcherait.
Et l'océan, là, est glacé.
Voilà, bref, c'est un très bon roman. Et je pense que c'est une auteure à suivre car elle a c'est très bien réussi tant dans la construction de l'intrigue que les personnages et de l'écriture.
Ben voilà, et là on s'interrompt parce que dans 4 secondes... On...